C'est près de Trois-Rivières que nous avions rencontré Mgr Tessier. C'était un homme de la terre et de l'eau et plein d'humour. C'est ainsi qu'il nous écrivait après la première diffusion de cette entrevue « Je me suis bien amusé hier à rencontre ». Il avait parcouru le Québec en montrant ses films et en prenant des milliers de photos qui sont pour nous tous un patrimoine exceptionnel. Mgr Tessier est mort un an après cette entrevue.
Mgr Tessier, très jeune, vous avez fait de la photographie. D'ailleurs, vous êtes célèbre pour vos photos. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la photographie?
L'idée de prendre des notes sur des choses qui m'intéressaient. Encore une fois, là, j'ai commencé, quand mes premières photographies, c'était des photographies d'arbres et des photographies d'eau. Les choses que je voulais conserver. C'est une façon, en somme, d'écrire avec mon appareil, mon cinéma. Pour mon cinéma, parce que ça a commencé beaucoup plus tard, ça a commencé en 25 du cinéma. Ben,
votre premier appareil?
Mon premier appareil, c'était un petit Brownie de 2 piastres et 25 que j'avais acheté en vendant des barbus que je prenais dans le fleuve. Ça, c'était un des à côté qui m'attirait vers le fleuve, mais ça me rendait service sous bien des rapports.
C'est des photos comme celle-là, c'est des photos de votre Brownie que j'ai.
Ça, c'est des photos de Brownie qui ont été agrandies dernièrement.
Ça, c'est les photos comme on les connaissait au début, là, les ça, gens
c'est,
qui...
C'est la photo à net, là, excepté que je n'ai pas averti. Je n'ai pas compté un, deux, trois. Je les ai photographiés instantanément. Ça, il y a ce qu'il a envie de penser, là, lui, là, non?
Ah, oui, c'est intéressant pour nous, ça.
Vous remarquerez que les dames, surtout, n'ont pas eu le temps d'être surprises. Puis n'ont pas eu le temps de rectifier leurs mèches.
Alors que ici, là, on a une photo qui est quand même presque une création de vous, là. C'est cette photo des gens qui viennent, là, de l'autre côté.
Ça, c'était encore... C'était plus qu'original parce que on trouvait que c'était gaspillé du film.
Une tourne dos.
Poser des gens de dos, on n'a pas d'idée. Et surtout en marchant. Pas leur demander d'arrêter.
Ce que vous aimiez surtout, c'était de faire du paysage québécois, comme cette photo où on a votre...
Et j'ai toujours aimé photographier des gens de dos, je ne sais pas pourquoi, oui. Enfin. Comme ça, ici, évidemment, c'est normal, parce que les personnages ne sont pas le sujet. Le sujet, c'est le paysage. Il est normal, le paysage, lui, l'homme au premier plan, mon père, est là simplement pour nous dire où regarder. Je vous avoue que c'est une photographie qui me plaît assez.
Ça, c'est des photos que vous avez prises dans les années 1900...
Ça, c'est en rhétorique en 1914.
En 1914.
Un de mes confrères, un écrivain, Louis-Georges Godin, l'oncle de... Comment il s'appelle, Godin, là, le jeune, là?
Guy Godin?
Ah, pas Guy, là.
Okay.
Il a écrit des volumes.
Il a écrit des volumes?
Il est en parti pris, je pense.
Ah, oui.
N'inscrivez pas ces notes.
C'était les photos au fond de la terre, les photos de la vie de nos dépaysés.
Évidemment, tout mon décor de vie, c'était la terre, la paysannerie. Et bien, même si je ne travaillais pas beaucoup au champ, parce que le petit dernier, qui était faible de santé, on l'exemptait de toutes les corvées un peu dures. Mais quand même, il y avait un certain nombre d'activités. Travailler au foin, j'aimais ça beaucoup, à cause de la senteur du foin, puis de l'exercice. Un exercice pas trop violent, au grand air.
Ça a été votre passion, quand même, les gens de ce pays et ce pays?
Oui, je peux vous dire une chose, c'est que je serais prêt à faire tout un plaidoyer pour défendre la paysannerie aux habitants. On a déjà dit qu'il n'y a pas eu de civilisation paysanne. Je ne comprends pas ce qu'on entend par civilisation. Parce qu'il y a eu une mentalité paysanne, il y a eu une civilisation paysanne. Les gens de mon époque, en tout cas, présentaient une conception de vie et une façon d'envisager les devoirs et les problèmes de la vie complètement différents. Et j'ai gardé, encore une fois, un culte. Et un des films que j'ai présenté avec le plus de joie est intitulé « Hommage à la paysannerie ». Et j'avais photographié, ça avait plus habitant. Et j'ai photographié mon père en évitant de le photographier une seule fois en dimanche. Et je peux vous dire une chose.
Et à ce moment-là, vous étiez révolutionnaire aussi.
Oui. Je peux dire une chose, j'ai eu l'impression, dans les collèges classiques, parce que dans les collèges classiques, il faut dire que les habitants n'avaient pas une cote très haute. Et les professeurs leur disaient souvent, « Ben écoute, si tu n'es pas capable de travailler, retourne donc tes bœufs, toi. » J'ai entendu dire ça par un par un professeur qui était pourtant fils d'habitant, mais ça faisait partie ça, du jeu.
Alors que vous, votre père était un garçon qui avait fait un cours
classique. Qui avait fait un cours classique, puis qui a fait un habitant qui nous a jamais dit que c'était beau, mais en fait, tout son comportement nous disait qu'il y avait une sorte de joie profonde à travailler et à recommencer chaque jour les travaux de la terre.
Alors, si on revenait à votre travail, là, quand même, comme photographe et aussi comme cinéaste, vous en avez fait des photos.
Avec mon Leica, je n'exagère pas en parlant de 25 000 photos.
Signé ta vie.
Mais il n'y a pas tout été. 25 000 négatifs, en réalité, que j'entends. Parce que. Il y a eu des scènes, quand une scène m'intéressait, par exemple, je prenais toujours les scènes sur le vif. Je n'ai jamais préparé rien. Jamais dit à quelqu'un, voulez-vous vous mettre là puis faire telle chose. Non. Je photographiais, c'est pas compliqué, j'avais toujours mon Leica pectoral dans le cou.
Pas votre croix pectorale, mais votre Leica pectoral.
Puis, mon appareil de cinéma, mon Bolex, à côté de moi. Et comme je faisais à peu près 40 000 milles d'auto par saison, à travers toute la province, chaque fois qu'une scène me frappait, je disais photo. Mon chauffeur, j'avais un chauffeur. Mon chauffeur arrêtait, puis je descendais, je prenais. À ce moment-là, il n'y avait pas d'idée préconçue, ça va servir à telle et telle chose. Tout ce que je trouvais beau, tout ça sur quoi je voulais attirer l'attention du public, et des gens et des jeunes surtout, ça, je le photographiais. Et quand arrivait le moment de faire un film, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de films à thème. Cantique de la création, par exemple. Et rien qu'avec des scènes de chez nous. Le Bénédicite, Cité, Omni, Opéra, Domini, Domino, le cantique de la louange.
Ève du Seigneur, bénissez le Seigneur.
C'est ça.
Tiré du psaume, là.
Exactement. Et je crois que ça impressionnait assez les gens de voir que des choses qui leur étaient familières. Parce qu'il y a une autre chose aussi, je n'ai jamais eu aucun truc. Tout mon cinéma, c'était nature, puis aussi simple que possible.
Pas d'éclairage, pas de...
Non, jamais de lumière, pas d'éclairage, puis à part de ça, pas de scène non plus anormale. Toutes les choses les plus ordinaires. Et je le disais d'ailleurs aux gens, vous trouvez ça beau sur l'écran, mais vos yeux n'ont qu'à regarder, puis ils vont photographier des centaines d'images comme celle-là.
Et vous travaillez comment? Vous aviez de bons appareils? Vous aviez...
J'avais un Bolex, c'était un bon appareil. J'avais un Bolex qui était surtout avec un grand angle, qui était foyer universel. Ça me permettait instantanément. Je n'avais pas besoin, je mettais mon appareil au point le matin, là, et à moins de circonstances spéciales, j'étais sûr que je pouvais photographier à peu près n'importe quoi dans le courant de la journée.
Et vous travaillez comment? Avec trépied?
Je n'ai jamais employé de trépied.
Toujours à l'épaule.
C'est tout révolutionnaire, mais enfin, même des pas de...
En quelle année, ça, vous travaillez comme ça?
1925 à 65, mais à 25 à 50, à peu près.
Donc, bien avant là, qu'on parle de ça, de la caméra stylo, vous en faisiez sans le savoir.
J'ai fait du cinéma sans le savoir aussi. Du cinéma, ils n'appellent pas ça cinéma vérité?
Cinéma vérité.
Bon.
C'est ça que vous faisiez?
Ça, pas.
Puis vous montriez ça à travers la province.
Je l'ai montré, je n'exagère pas en parlant d'une moyenne de 300 conférences par année pendant au moins 15 ans.
Par goût?
Par goût, oui. Dès que le public réagissait, là. Et ce sont les intellectuels qui réagissaient le moins bien. Qui n'étaient pas capables d'aller à ce que je voulais faire dire à l'image. Qui s'arrêtaient sur des à côté, des petites insignifiances. Et c'est des bons, gros habitants qui comprenaient le mieux. C'est vrai que je parlais leur langage, puis que je leur parlais de choses de chez eux. Et j'ai été remercié, mon Dieu, et présenté peut-être 4000 fois, avec beaucoup d'hommages. Il y a une présentation, un remerciement dont je me souviens. C'était dans le pays de colonisation du côté de... En tout cas, du côté d'Empotou, vers le bas du fleuve, là. Puis, c'est un bon paysan qui m'avait répondu, qui m'a remercié plutôt. Et il m'a dit en substance ceci, monsieur le curé, quand on nous a annoncé que vous étiez pour nous montrer des vues d'habitants, on a pensé que vous étiez pour nous montrer des beaux animaux, des belles bâtisses, des belles granges, mais on s'est vite aperçu, et ça c'est textuel, on s'est vite aperçu que vous vouliez nous montrer l'âme de la terre. Mais ça, je peux vous dire une chose, que c'est peut-être le seul remerciement dont je me souvienne.
Au fond, c'était toute votre vie, ça, Monseigneur Tessier, faire apparaître l'âme de la terre.
Oui. Révéler aux gens, les amener à regarder autour de eux, à trouver ça beau. Chaque fois que vous passez devant de la beauté, si vous n'arrêtez pas, ben vous refusez un cadeau du Seigneur, je le disais dans mes conférences. Ça, ça n'a pas été mis pour les animaux. Les animaux ne peuvent pas savourer la beauté. Une belle fleur, ça, une abeille peut aller chercher du miel, mais elle ne va pas chercher de la beauté. Mais nous autres, on peut s'arrêter et la regarder. Alors pourquoi refuser ce plaisir et en même temps un hommage, qui est une sorte de prière? Dans mes cantines, dans mon cantine de la création, par exemple, peut-être un de ceux que j'ai fait avec le plus de joie, le plus de conviction. Et un des passages du cantique de François d'Assise, Gloire à l'eau, j'ai rêvé toute ma vie d'en faire un. Et j'aurais voulu qu'il soit tellement bien que je ne l'ai jamais fait. Une preuve que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Mais j'ai quand même fait un film de à peu près 1000 pieds quand même au début. J'ai réduit graduellement à 500, à 400 pieds. J'aurais voulu faire un beau film. Il y a un thème admirable, l'eau. Gloire à l'eau, de Saint-François d'Assise. Et si j'étais cinéaste, je pense que je m'y mettrais uniquement à ça.
À faire un film comme celui-là.
Gloire à l'eau, l'eau mère de la vie, l'eau collaboratrice de l'âme. Et c'est sur, j'en joins sur ces deux thèmes-là. Il y a moyen de faire un film de 2000 pieds qui sera admirable.
Mais si je comprends bien aussi tout ça, pour vous, ça a été une prière.
Exactement ça, il n'y a pas d'erreur. Et c'est pour ça que le cantique de François d'Assise, par exemple, ça, quand ça m'est tombé sous les yeux, je ne sais pas, j'étais peut-être en rhétorique dans ce temps-là, ça a été une révélation pour moi. Soit loué mon Seigneur, notre seul loup, le soleil, Messie, le frère, le soleil et tout. Et là, je chantais qu'il y avait moyen de faire de prier sans être dans une chapelle, sans être non plus en train de dire une prière officielle. Il y a une façon de prier même. Et mon calvaire, voisin de chez nous, m'a bien aidé à prier. Et c'est probablement un des premiers cas où j'ai commencé à parler au Seigneur en le tutoyant. En ce temps-là, c'était grave de tutoyer le Seigneur. Mais comme personne ne le savait, ma chambre donnait justement sur le calvaire, la fenêtre de ma chambre. Alors le matin, quand je faisais ma prière, je faisais ma journée, je faisais une prière personnelle. Déjà à ce moment-là. Je crois que c'est différent, complètement différent. J'avais mes problèmes, puis je les exposais. Ça, c'était déjà révolutionnaire aussi.
Et aujourd'hui, Monseigneur, comment ça se passe, la prière?
Il y a peut-être beaucoup de passivité, mais il reste quand même dans cette... parce que j'ai encore le besoin de la solitude. Je suis très, très heureux quand je suis seul, dans un portage, par exemple, au bord d'un lac. Et là, il y a une espèce d'échange, contemplation. C'est peut-être pas conscient, mais je crois que c'est quand même. Je crois que c'est quand même une prière.
Si on parlait aussi, Monseigneur, de votre vie de combat.
Ma vie de combat. Remarquez bien que je me suis toujours battu pour défendre des choses que je considérais essentielles. Sur les aspects secondaires des problèmes que je touchais. J'étais très, très large. Quelqu'un me disait, c'est vraiment, t'es trop têtu. Je suis pas têtu, je suis convaincu, ce qui est très différent. Remarquez que je m'entête pas sur des choses qui sont insignifiantes ou qui sont secondaires. Mais ce que je considère comme fondamental. Quand je m'en vais dans une direction, je sais habituellement où je vais. J'essaye de pas penser trop à ceux qui font des commentaires à chaque côté du chemin. Mais ceux qui sont dans le chemin, par exemple, là, à ce moment-là, ben,
et vous en avez eu des problèmes. D'abord, je me souviens, là, dans vos mémoires, quand vous parlez des difficultés que vous avez eues avec vos supérieurs de l'époque. Puis ça vous a poursuivi tout le temps, jusqu'au conflit avec même les cardinaux de...
Et même les cardinaux.
Même oui. Les cardinaux.
Chez le cardinal Tisserand. Mais c'est bizarre, moi, ça ne me fatiguait pas du tout. Ça ne me bagassait pas du tout. Même si Chrétien était de pire, c'est que mon évêque, pendant au moins 4 ans, rien que sur le mot Mauricie, m'a dénoncé en public, je ne sais pas combien de fois.
Rappelez-nous donc cette histoire-là.
Bon, ça, c'est pas de la grande histoire, ça. J'avais donné le nom de Mauricie parce que j'étais fatigué de toujours dire Vallée du Saint-Maurice. c'était pas harmonieux, puis c'était long, puis etc. Ben, à un moment donné, je décide de baptiser la région à la Mauricie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, Monseigneur a mal pris ça. Il est parti en guerre contre le mot Mauricie. Et il est parti en guerre au moment où déjà le mot est adopté partout. Tous les conférenciers qui venaient, il fallait que je les avertisse. Quand Monseigneur Contois sera là, voulez-vous éviter de parler de Mauricie? C'est devenu quasiment un point d'une sensibilité, là. D'ailleurs, dès que le mot Mauricie était prononcé, il y avait un petit mouvement de foule, puis on avait l'impression que le cou de Monseigneur Contois rougissait. Ça, ça a duré 4 ans. Remarquez bien qu'à partir du moment où Monseigneur a dénoncé le mot, j'ai cessé complètement de l'employer. Tant que Monseigneur Contois n'a pas été mort, je n'ai pas employé le mot.
Au fond, l'homme de combat que vous avez été était aussi un homme obéissant.
D'une certaine façon. Ça surprendrait peut-être les gens si vous me classiez comme obéissant, mais enfin, j'ai l'impression que j'obéissais. Quand on me confie une responsabilité, comme mon supérieur au début, par exemple, qui était rien que la tradition, la foi, le petit incident des hommes de la cour, je ne sais pas si vous vous souvenez ça dans mon livre, c'est peut-être une de mes malices les mieux réussies. J'avais envoyé des professeurs, je m'étais occupé beaucoup de botanique, intéressé à la botanique avec Marie Victorin, je le connaissais. Puis il y avait aussi un père trappiste. Alors, j'avais envoyé un professeur prendre des cours à la trappe du père Louis-Marie. Et un printemps, j'avais dit aux professeurs, tu vas sortir les élèves ce soir pendant l'étude, c'est-à-dire l'étude du vendredi, les gens ne travaillaient jamais, tu vas sortir les élèves et tu vas leur donner un cours de botanique sur la constitution de la plante, la composition de la plante, comment elle se développe, comment elle se produit, etc. Moi, j'étais bien tranquille à mon bureau. Je n'étais pas fait des études, par conséquent, je n'étais pas sorti de mes attributions. À un moment donné, ça frappe, le professeur rentre, il dit, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il y a des élèves dans le cours, là, pendant l'étude, en chemise, pour ça, il n'y a pas leur surtout. Là. Ah oui, j'ai dit, j'ai demandé au professeur de donner une leçon de botanique d'après nature. Et je lui ai donné comme sujet les deux grands arbres de la cour. Puis j'ai pensé que c'était plus facile de sortir les élèves que de rentrer les arbres. Alors, mon pauvre supérieur, il a respiré un peu plus rapidement pendant quelques secondes.
Mais quand vous avez été comme ça en but à votre supérieur, à votre évêque, même donc aux congrégations religieuses canadiennes à un certain moment donné, à des cantineaux, vous n'avez jamais eu envie, comme certains ont pu l'avoir, de tout envoyer promener?
Pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça absolument normal, même. Écoutez, il faut comprendre les gens. Ça, je crois que c'est absolument important. Quand mon supérieur, par exemple, qui jura rien que par la tradition, m'attaquait sur des sujets comme ceux-là, ça ne me surprenait pas du tout. Ça faisait partie de sa psychologie à lui, et je l'acceptais. J'avais quand même l'impression d'ouvrir des chemins nouveaux, mais dans ce temps-là, il faut évidemment, quand on dérange du monde, il faut...
Tout en ouvrant des chemins nouveaux, et ça apparaît toujours dans votre livre, vous êtes aussi l'homme de la fidélité. Vous êtes content, par exemple, d'avoir eu autant de confrères qui sont devenus prêtres puis qui sont demeurés. Et vous insistez là-dessus, oui. Sur la fidélité.
J'attache beaucoup d'importance à la fidélité. Et un de mes chalets sur le terrain ici, un de mes chalets préférés, s'appelle la fidélité. Puis il y en a un autre à côté qui s'appelle le sourire. Ça, c'est une sorte de vocabulaire pas mal dans le ton de Tabibois.
C'est au fond, ça a été votre vie, ça, le sourire puis la fidélité. Fidélité à vos ancêtres, fidélité à votre pays.
Oui, ça là-dessus, j'ai... Fidélité aussi à des engagements.
À vos engagements.
À ça, là, j'appartiens à une race, là, à une époque en tout cas, quand quelqu'un avait dit ça, c'est ça. D'ailleurs, on disait, un tel, vous pouvez fier à lui, vous fiez à lui, ça c'est franc comme l'épée du roi. Ça, je trouve ça beau. Et un autre, bon, il n'y a pas de fiat à avoir. Ça, c'était le pire jugement qu'on portait sur un homme.
Monseigneur, vous avez 80 ans, vous avez fait toute une œuvre. Quand vous regardez le monde autour de vous, est-ce que vous êtes porté encore à sourire? Ou si vous êtes pas un peu pessimiste?
Je plains le monde. Je l'ai plein.
Comment ça?
Je l'ai plein parce que, surtout les jeunes, j'ai l'impression qu'ils s'ennuient. Parce qu'ils n'ont pas de motivation, il n'y a pas de... J'ai toujours eu quelque chose qui me poussa vers quelque chose. Je ne me souviens pas à aucun moment d'avoir flatté et de m'être demandé qu'est-ce que je ferais bien aujourd'hui. Par conséquent, je pense qu'aussi longtemps qu'on a hâte à quelque chose, on est dans l'état d'espérance, puis on échoue.
Mais je peux-tu vous demander à quoi vous avez hâte aujourd'hui? Je sais bien que vous m'avez dit que, bon, vous aviez hâte d'aller pelleter, mais ça ne suffit pas pour remplir une vie. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui?
C'est une question, là. Une question embêtante. Qu'est-ce que j'espère? J'espère être capable de faire face aux problèmes qui surviendront, quels qu'ils soient, jour après jour, une journée à la fois. Ça, je peux vous dire que c'est la ligne de vie peut-être la plus stricte que je me suis tracée, rien qu'une journée à la fois. Ça ne m'empêche pas de penser à un problème que je réglerai dans 15 jours. Mais je ne m'en occupe pas tant que je ne suis pas en train de le régler. Je sais que je le réglerai à ce moment-là, mais il n'intervient pas. D'ailleurs, on m'avait dit dès le début, un médecin qui m'avait dit, écoute, le jeune, là, vous partez raide, on va vous donner une ligne de conduite. Aussi longtemps que vous êtes capable de vous occuper rien que d'un problème à la fois, vous pouvez travailler 20 heures par jour, c'est pas grave. Mais dès le moment où il y aura interférence de deux problèmes, arrêtez, là vous êtes en court-circuit. Ça, je crois que ça a été, au point de vue de mon hygiène d'action, ça a été le conseil peut-être le plus utile.
Mais ici, là, quand vous recevez de la visite, puis vous en recevez beaucoup, quand vous avez ouvert ce domaine en le donnant à une communauté religieuse, qu'est-ce que vous attendiez de tout ça?
J'attends qu'ils trouvent ça beau. Et dès le moment où j'ai l'impression, quelqu'un arrive devant un lac comme ça, par exemple, ça mortit là-dedans. J'ai dit, regardez le don avant le lac, il est beau. C'est le premier cadeau qu'il peut nous faire, c'est beau de l'eau. Et on parlera de poisson après. Mais la première réaction, puis il y en a d'autres, il y a un maringouin, puis il y a tout le paysage à mes autres, il ne voit rien que le maringouin. Je voudrais qu'il trouve ça beau. Parce que ça donne de la saveur à la vie.
Toute une vie consacrée à ça.
Et oui, l'émerveillement. Et il y a un de mes amis qui m'a dit, tu as pratiqué deux vertus. Une, bien haïssable pour les autres, l'entêtement. Puis l'autre, l'émerveillement qui était acceptable par tout le monde. Et voilà.
Mais comment on peut faire ça encore, de l'émerveillement? Est-ce qu'on s'éduque à ça? Est-ce qu'on a ça naturellement?
Je crois qu'on s'éduque, mais je l'avais certainement naturellement. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est mon père qui m'a donné le goût de passer des heures, puis des heures, puis des heures devant le fleuve. Ça, c'est à... C'est un charisme.
Un charisme.
Comme le charisme de l'appel actuellement que j'ai. C'est un autre charisme.
Ouais.
Je suis un des rares. Il y en a qui me demandent si j'écris encore. Ici, à ta vie voix, je n'écris jamais. Parce que je fais quelque chose de beaucoup plus original. Je travaille à la petite pelle. Il y a des milliers de gens qui écrivent. Je suis peut-être un des seuls qui pellent avec amour.
Mais... Si aujourd'hui, là, vous aviez quelque chose à dire à des éducateurs, comme vous l'avez dit pendant des années, ou vous êtes intervenu, par exemple, pour dire à des gens, mais changez donc de costume, soyez donc plus concret, plus naturel. Si vous aviez quelque chose à dire aujourd'hui, donc, pour dire à des éducateurs, là, pour repasser au fond le même message que vous avez voulu passer, qu'est-ce que vous feriez?
Ça, je vous avoue que si j'étais encore dans l'éducation, je serais bien embarrassé. J'aurais l'impression d'être désemparé. J'en suis convaincu. Est-ce qu'il y a encore moyen de saisir la personnalité? Parce que tout est là, vous savez. Quand on juge uniquement par quotient intellectuel, on juge là encore par un des facteurs qui n'est pas le plus important de loin dans la façon de mener sa vie, de conduire sa vie. Le quotient du cœur, le quotient moral, le quotient de personnalité, si vous voulez, est beaucoup plus important que l'intellectuel. Vous pouvez avoir des types qui sont presque des génies, puis qui sont des idiots, qui se conduisent comme des idiots. Cherchez l'équilibre.
Oui, mais vous avez su le saisir le cœur à certains moments donnés. Quand vous alliez présenter vos films, vous avez su réveiller des choses. Vous avez su justement permettre à des gens de comprendre que vous leur manifestiez l'âme de la terre.
Oui.
Aujourd'hui, vous seriez désemparés.
J'ai l'impression qu'il ne mordrait pas. Et je vous avoue, ce qui est assez naturel, hein, que quand je donnais un cours à mes élèves et que je sentais que ça ne mordait pas, d'ailleurs, habituellement, j'arrêtais. Correct. Prenez un papier, on va vous faire faire une petite composition, on va vous faire un petit travail, ça a peut-être de passivité. Il faisait plus longtemps en semblant de m'écouter. Mais quand je sentais que les élèves n'étaient pas intéressés, ça tuait tout mon enthousiasme.
Mais est-ce que c'est dire que vous êtes un peu déçu par la tournure des événements, par...
Sur le plan pédagogique, oui. Sur le plan pédagogique, parce que je ne crois pas à l'éducation de masse. Il n'y a pas deux individus pareils. L'éducation, pour qu'elle soit parfaite, il faudrait qu'elle soit individuelle. Ça suppose, par conséquent, qu'on peut atteindre les gens individuellement. Autrefois, vous aviez, avec toutes les lacunes sur le plan académique, maintenant qu'on ne pouvait pas supporter, il y avait au moins une sorte de responsable de nous autres. C'était lui qui avait mission de nous dire, ben, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on l'écoutait habituellement. C'est ce qu'on appelle titulaire. Actuellement, ce que je trouve le pire, c'est le fait que les élèves ne peuvent pas vraiment recevoir l'influence d'un professeur.
D'un maître. C'est donc pas de la jeunesse dont vous êtes déçu, c'est peut-être de l'organisation.
C'est de l'organisation. C'est non, la jeunesse, je la plains sans... Elle est victime, mais elle n'est pas responsable de ce qu'on lui met.
Quand vous les rencontrez, les jeunes, ici?
Quand je les rencontre, je les fais parler. Je les fais parler, je commente pas trop, parce que on sent que... D'abord, ils parlent à un vieux... pas de leur époque, qui n'est probablement pas de leurs idées. Alors, quand je parviens à les mettre assez à l'aise pour qu'ils disent ce qu'ils pensent, je crois que j'ai déjà obtenu un résultat. Et à partir de ce moment-là, quand je les ai écoutés pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ben, j'ai peut-être acquis le droit de dire quelques mots à ce moment-là.
Monseigneur Tessier, je vous remercie des mots que vous nous avez dit.
Rappelons que Monseigneur Albert Tessier est décédé en septembre 1976, peu de temps après avoir publié « Souvenirs en vrac » aux éditions Boréal Express.